Bonsoir à tous. Je suis contente d'être au milieu de vous. C'est toujours pour moi un bonheur de venir vous rencontrer. Alors, je vais partager quelque chose que j'ai sur mon cœur. Seigneur, je te demande vraiment de me conduire, de m'éclairer, de me guider. Seigneur, que ton esprit, Seigneur, me fortifie maintenant, dans le nom de Jésus. Voilà. Hier soir, je regardais les infos et j'étais vraiment attristée de voir tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, mais aussi ici en France. Alors, je ne suis pas forcément axée sur la politique. C'est bien pour ceux qui aiment, hein, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce n'est pas trop mon truc. Mais je me disais que quand même, ce dernier quinquennat allait nous laisser une odeur de mort sur notre pays. Dieu a dit, j'ai créé l'homme et la femme. Le diable, lui, nous dit, mais non, vous n'y comprenez rien. Il n'y a plus d'homme, plus de femme, ça ne veut plus rien dire, ça ne sert plus à rien. Dieu a dit, croissez, multipliez. Le diable, lui, nous dit, mais non, il y a trop de monde sur cette planète, il faut arrêter de faire des enfants. Ne vous mariez plus, ne fondez plus de famille, c'est ringard, c'est pas écologique. Et le diable continue. Et après tout, les humains, vous avez bien le droit de choisir, de décider qui a le droit de vivre ou de pas vivre. Quand est-ce qu'on a le droit d'arrêter la vie ou qu'elle continue? Les hommes disent, Dieu, on veut plus que tu te mêles de nos affaires. On ne veut plus de toi, on ne veut plus de tes lois, on ne veut plus de ta sagesse, on veut faire comme on veut. On veut décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Je me suis déjà posé la question, je pense que vous vous l'êtes posé déjà, après tout, pourquoi Dieu ne voulait-il pas que l'homme mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden? Ben, en fait, l'être humain qui se croit si intelligent, qui voudrait prendre la place de Dieu, il est tout petit, il est limité dans le temps, il est limité dans l'espace. Il ne peut pas savoir comment se servir de cette connaissance. Et ce que certains vont appeler bien, eh bien d'autres vont l'appeler mal, et vice-versa. Et surtout, ce que Dieu, lui, appelle bien, l'homme l'appelle mal. Et ce que Dieu appelle mal, l'homme l'appelle bien. Et nous, les petits hommes que nous sommes, nous ne connaissons pas les conséquences de tous nos actes. Dernièrement, j'ai acheté un livre de C.S. Lewis qui s'appelle « Tactique du diable ». Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est assez particulier. Ce livre est sorti en 1942, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et dans ce livre, C.S. Lewis, c'est celui qui a fait Narnia, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, donc un chrétien bien sûr. Et dans ce livre « Tactique du diable », il parle de comment le diable s'y prend pour éloigner les chrétiens de la volonté de Dieu avec tous ses pièges subtils, bien sournois. Et là, on se rend compte que même en voulant faire le bien, on peut s'éloigner de Dieu, de la volonté parfaite de Dieu. Donc, ce livre, en fait, c'est un démon qui est plus expérimenté, qui explique à un autre démon qui est un peu moins, voilà, comment il faut faire pour aller titiller les chrétiens et pour aller les faire tomber, en fait, les éloigner de Dieu. Le but, c'est d'éloigner les chrétiens de Dieu. Donc, quand il a écrit ce livre, donc c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc, je prends un exemple, hein, c'est un petit exemple parmi tant d'autres, mais dans cet exemple, C.S. Lewis nous dit donc qu'il y avait deux courants de pensée chez les chrétiens, c'était pendant la guerre. Il y avait les chrétiens qui étaient pacifistes, qui étaient objecteurs de conscience et qui ne voulaient absolument pas prendre les armes. Il y avait un autre courant de pensée, c'était les patriotistes, qui eux voulaient absolument gagner la guerre contre les nazis. Donc, en fait, les deux courants de pensée, vous êtes bien d'accord qu'ils sont tous les deux justes et louables, mais complètement opposés. Donc, si je vous lis ce que l'ennemi dit donc à son petit élève démon, ce qu'il faut faire. Alors, je vais vous le lire. C'est un français un peu compliqué, mais bon, je vous expliquerai après. Donc, quelle que soit son orientation, ta tâche principale restera sensiblement la même. Donc, en parlant du chrétien, qu'il commence par considérer son patriotisme ou son pacifisme comme partie intégrante de sa religion. Puis, poussé par le parti pris, qu'il en vienne à penser que c'en est la partie la plus importante donc de sa religion. Puis petit à petit, très doucement, amène-le au stade où la religion ne sera plus qu'un aspect de la cause, où le christianisme est surtout estimé parce qu'il apporte d'excellents arguments à l'appui de l'effort de guerre britannique ou au pacifisme, selon qu'il est pour le pacifisme, selon qu'il est pour l'effort de guerre. Bon. Une fois que tu auras fait du monde une fin et de la foi un moyen, tu auras presque gagné ton homme et le but temporel qu'il poursuit sera presque indifférent. Après tout, on s'en fiche, qu'il soit pour le pacifisme ou pour le patriotisme, l'ennemi, il s'en fout. Aussi longtemps que ce bon chrétien attachera plus d'importance aux réunions, aux pamphlets, à la politique, aux mouvements, aux causes et aux croisades, plutôt que aux prières, aux sacrements et à l'amour du prochain, il sera des nôtres. Et plus il sera religieux, comme à la façon dont l'ennemi l'entend, bien sûr, plus sûrement il nous appartiendra. En fait, dans cette histoire-là, on fait de Dieu un moyen pour servir sa cause et non plus une cause pour servir Dieu. Donc en fait, si je vous ai lu ça, c'est pour vous montrer que dans cette affaire, le but du diable, c'est de focaliser l'attention des croyants sur une de ces deux causes et de détourner son attention de Christ. Qu'est-ce que font les croyants dans ce cas-là? Ils sont à fond dans leur cause. Mais ils oublient que, en fait, leur but principal, c'est Christ. Alors maintenant, on revient à notre monde, là, et à notre chaos. Vous voyez le tableau, un peu ce qui se passe en ce moment. Donc, on ne sait plus où on en est. Si on regarde ça, c'est terrible. Et je me suis dit, mais Seigneur, comment on fait, là, dans cette histoire, pour prier pour la France? Puis j'ai pensé, vous n'êtes jamais posé la question, quand Jésus est venu sur terre, des fois je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas aboli l'esclavage? Pourquoi tu n'as pas fait fuir les Romains? Pourquoi tu n'as pas éradiqué la pauvreté? Pourquoi tu n'as pas guéri tout le monde? Tu aurais pu faire le paradis sur terre. Et Jésus nous dit que son royaume n'est pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, si ce monde nous laisse une odeur de mort, nous, les chrétiens, nous devons laisser une odeur de vie. Donc, je voulais lire dans Deutéronome, au chapitre 30, versets 19 à 20. Voilà. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et ta prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dans Jean 17, au verset 3, il est dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et Jésus dit de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, le Seigneur me dit, ben, qu'est-ce qu'on fait pour la France, pour le monde? On répand une odeur de vie. Et comment on fait ça? Comment on répand une odeur de vie? Eh bien, avant tout, on recentre nos vies sur Christ. On prie pour le corps de Christ, pour l'Église de Jésus-Christ. On bâtit l'Église de Christ. On restaure l'Église. On doit répandre la bonne odeur de Christ. Dans Éphésiens au chapitre 2, donc il est écrit « Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » L'Église doit être un phare dans ce monde de ténèbres. On a souvent parlé du phare. On a souvent eu l'image du phare. Le phare, c'est une lumière qu'on peut voir de loin. Ceux qui sont au dehors, ils doivent avoir envie de ce que nous avons. L'Église doit laisser derrière elle la saveur du ciel, le parfum du ciel. Ce parfum dont Sonia nous a parlé un coup pendant le culte qu'elle avait senti, c'est le parfum du ciel. L'Église doit pouvoir apporter au monde ce que Jésus apportait ici-bas. Quand Jésus est venu, il a guéri des malades, il a donné à manger, il a délivré des personnes qui étaient démoniaques. Il n'a pas fait quelque chose comme ça là, de vague. C'est au cas par cas, personne après personne. À chacun, il a apporté la solution à son problème. C'est Jésus, c'est notre modèle. Alors, du coup, pour toutes les églises du monde, pour l'Église de France, mais ici, nous, on est au tabernacle, donc on va dire pour le tabernacle, nous devons affermir l'Église. Nous devons avoir une Église qui est forte, une Église qui ne craint pas la tempête, une Église qui ne laisse pas rentrer l'ennemi, une Église qui est ouverte sur le monde, mais qui ne laisse pas entrer l'esprit du monde. Alors, c'est ensemble que nous voulons affermir notre Église. C'est l'affaire de nous tous. Ce n'est pas l'affaire que de quelques-uns, ici. Mais chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Je vais vous lire Néhémie au chapitre 4, versets 1 à 14. Donc, pour situer, donc la muraille de Jérusalem était en ruine et l'ennemi se faisait un plaisir de démolir au fur et à mesure ce qui était reconstruit. Vous voyez, Néhémie voulait reconstruire la muraille de Jérusalem. L'ennemi, au fur et à mesure que Néhémie faisait reconstruire la muraille, l'ennemi se faisait un plaisir de tout démolir. Et du coup, Néhémie a obtenu de chaque famille qu'elle répare la section qui était en face de sa demeure. Donc si je lis, je vais vous lire ce passage. Donc lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu ?» Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit, « Qu'ils bâtissent seulement, si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. » Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et nos ennemis disaient, « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons cesser l'ouvrage. » Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terres secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. » Combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. C'est l'affaire de tous. Donc, Néhémie avait obtenu de chaque famille qu'elle répare la section qui était en face de sa demeure. Nous ne pouvons pas arrêter ce qui vient sur le monde parce que c'est en fait le décor qui se met en place pour l'avènement de l'Antéchrist. Mais par contre, nous, l'Église de Jésus-Christ, nous pouvons faire en sorte que le royaume de Dieu se répande en ayant une Église qui soit forte, qui soit bâtie sur le roc, un édifice qui est fait de pierres vivantes et dont la pierre angulaire est Jésus. C'est toujours Jésus et ce n'est rien que Jésus. Et ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour la gloire de notre Dieu et Père céleste. Alors, par nos prières, par nos témoignages, par nos engagements, par notre fidélité, avec nos dons, avec tout ce que Dieu a donné à chacun, avec la force du Saint-Esprit en nous, battons-nous pour nos enfants, pour nos familles, pour tous ceux que Dieu met sur nos cœurs, pour aller chercher dans le camp de l'ennemi ce que Dieu veut mettre à l'abri dans son royaume, dans une église qui est forte, qui ne craint pas la tempête. Et je voudrais attirer votre attention sur 2 choses. On ne fait pas des œuvres pour faire des œuvres. Ça, le monde s'en charge très bien, il n'y a pas de souci. Nous, on fait les œuvres que Dieu nous demande de faire à l'instant T, maintenant, là, pour le besoin qui est là, maintenant, devant nous. Je voudrais aussi vous dire une autre chose. Quand vous venez à l'église, pensons, parce que je me mets avec vous, parce que c'est pareil, je suis comme tout le monde, pensons à ce que nous pouvons apporter. Et pas toujours que à ce que nous pouvons recevoir. Parce qu'après tout, quand on vient ici à l'église, on vient pour apporter un culte au Seigneur. Dieu est là. C'est pas l'inverse. C'est pas le Seigneur qui vient nous servir. C'est nous qui sommes là pour servir Dieu. Pour servir Dieu et pour servir les frères et sœurs. Et si nous venons dans cet état d'esprit, pour apporter un culte à Dieu, pour apporter notre louange à Dieu, pour apporter aux frères et sœurs, le jour où on est fatigué, où on est chargé, où on est trop malade, on sait qu'il y a des frères et sœurs ici qui sont venus pour nous aider, pour nous apporter quelque chose. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous devons venir apporter notre culte au Seigneur. C'est au Seigneur que nous venons apporter un culte. Nous ne venons pas à l'église pour recevoir, même si dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde, Dieu nous rend tout au centuple. Mais il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pour finir, je voudrais vous partager une parole, une vision, enfin une image que Jeanne m'a donnée. C'était à la fin du culte quand Jérémie avait prêché. Et ça m'a transpercé le cœur parce que j'ai pris ça, mais vraiment c'était une parole prophétique. Et elle a dit, je vois l'église du tabernacle comme un arbre qui fleurit. Et je sens déjà le parfum des fleurs qui montent vers le ciel. C'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est cette image que je veux que vous gardiez à l'esprit. Pas l'image du chaos qu'il y a tout autour de nous, mais l'image de cet arbre en fleurs. Et maintenant, imaginez toute la France, le monde entier dans le chaos, est plein d'arbres en fleurs. Tous ces arbres en fleurs, un arbre en fleurs, c'est un arbre quand même qui est prêt à porter du fruit. Et chaque arbre en fleurs dans la France, c'est chaque église, c'est une parcelle du corps de Christ. Chaque phare, chaque église, c'est un membre du corps de Christ, on est d'accord. Et nous voulons que notre église, le tabernacle, au milieu de toutes ces églises, puisse briller dans les ténèbres avec notre identité, notre couleur, la couleur que Dieu nous a donnée, les dons que Dieu nous a donnés, parce que chaque église a une couleur différente, des dons différents, apporte quelque chose de différent. Mais nous voulons que notre église soit comme un phare, cet arbre en fleurs qui va porter du fruit pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu.
Amen.
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 Voilà, c'était mon petit partage. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment bénir ton nom. Parce que nous t'aimons, Seigneur. Parce que c'est toi qui es venu nous tirer de la boue de notre péché. C'est parce que c'est toi qui nous as sauvés. C'est parce que c'est toi qui as voulu que nous participions à ta grande œuvre. Seigneur, nous voulons louer ton nom parce que tu es là au milieu de nous. Nous voulons t'apporter toute la gloire dont toi seul es digne, Seigneur. Et nous voulons être participants, chacun, Seigneur, à la hauteur des dons que tu nous as donnés. Parce que nul, Seigneur, n'est inutile, Seigneur. Tous sont utiles. Chacun a quelque chose à apporter dans l'édifice. Et nous voulons nous offrir, Seigneur, comme des pierres vivantes, comme des sacrifices de bonne odeur pour toi, Seigneur, à l'image du Christ, dans ce monde, Seigneur, de ténèbres qui a tellement besoin de toi, afin que nous puissions être ces témoins vivants, Seigneur. Ces personnes, Seigneur, que les gens pourront regarder et se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils ont que je n'ai pas ? Seigneur, nous voulons être remplis de ton Saint-Esprit. Amen. Pour que de nos vies puisse Alléluia. Couler un fleuve, ton fleuve d'eau vive. Merci Père, dans le nom de Jésus, merci pour cette grâce que tu nous fais de participer à ton œuvre.